Michel Younès, vous êtes à Rome pour parler de l'articulation entre foi et raison dans l'islam.
J'ai découvert que l'émergence de cette science à l'intérieur de l'islam sous une forme institutionnalisée a pris racine dans un débat entre christianisme et islam, notamment dans les premières rencontres entre chrétiens et musulmans. Donc la théologie musulmane est née en quelque sorte d'un débat, d'un dialogue, parfois sous forme de tension, mais aussi sous forme de prise en compte de ce qui différencie. Donc le débat permet à la fois de lier, mais permet à la fois de prendre conscience de l'originalité, de ce qui permet de différencier. Ce qui a motivé les musulmans dans leur quête de l'intelligence de la foi est inhérent au débat entre chrétiens et musulmans à cette époque-là. Et je m'inscris dans cette lignée. Je trouve que comprendre l'autre, c'est aussi l'interroger, c'est aussi s'interroger soi-même, c'est aussi voir qu'est-ce qui chez l'autre me dérange, mais aussi qu'est-ce qui le dérange chez moi, sans nier la différence, mais se faire entendre par l'autre. Ce qui me motive le plus, c'est de chercher à voir comment, en parlant de sa propre foi, de ce qui me fait être comme chrétien, peut être audible par l'autre. Parce que ça ne sert à rien de raconter sa foi d'une façon complètement inaudible par l'autre. À qui l'on parle? Si on parle aux musulmans de la même façon qu'on parle à n'importe qui dans le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'inscrit pas dans ce dialogue. Il n'y a pas véritablement dialogue.
Vous disiez, on ne peut pas communiquer sa foi chrétienne à n'importe qui, qu'il soit musulman, juif ou athée. Il faut donc un contexte. Quel est le chemin que vous transmettez?
D'abord, il y a un contexte. Ça, vous avez tout à fait raison de le souligner. Il y a un contexte. On ne peut pas dialoguer d'une façon complètement, entre guillemets, désincarnée. Il faut prendre en compte le contexte dans lequel on se situe. Deuxièmement, il y a le contexte culturel. Et le dialogue des cultures n'est pas un chapitre qu'on traverse une fois on a terminé le dialogue interreligieux, ou n'est pas quelque chose qui est complètement extérieur au dialogue interreligieux. Le dialogue des cultures, prendre conscience qu'on peut habiter la même culture pour pouvoir dialoguer est très important. Moi, je ne peux pas dialoguer avec le musulman sans prendre conscience que ce qu'il habite comme culture m'habite aussi culturellement parlant. Donc, on a cette même culture.
Ou pas.
Ce qui donne lieu à deux démarches ou deux éléments, à mes yeux, très important. D'abord, l'histoire commune. On traverse une histoire commune, prendre le temps de la relire et de la bâtir. Deuxièmement, c'est l'importance du langage. Pas uniquement de la langue, mais du langage. Parler des mots qui ont du sens pour l'autre, qui prennent sens pour l'autre. Quand je parle du verbe de Dieu, que ce verbe prenne sens aussi, qu'il soit audible dans, d'abord, le langage culturel et religieux musulman. Sinon, s'il n'y a pas cette étape première, mon dialogue peut devenir très vite un dialogue de sourds.
Quelles ont été vos grandes découvertes dans cette recherche?
Alors, quelles sont les grandes découvertes? Je ne sais pas si j'ai fait de grandes découvertes. C'est plus une exploration d'un domaine que j'ai reformulé.
Quelles ont été vos découvertes personnelles sur votre propre foi chrétienne?
C'est une question qui me touche profondément parce que j'ai appris à croire d'abord autrement. À croire en prenant conscience que je ne crois pas uniquement pour moi-même, que croire c'est aussi une façon de témoigner de sa foi, c'est-à-dire qui fait appel à un tiers. Je ne peux pas croire uniquement pour moi-même en restant dans ma bulle, je crois, c'est-à-dire j'atteste de ma foi devant un tiers qui peut ne pas partager ni ma foi, ni ma culture, ni mon langage. Donc ça m'incite encore plus en croyant à d'abord écouter, faire l'apprentissage de l'écoute de cette différence culturelle ou différence religieuse, mais aussi me renvoyer à moi-même, apprendre à puiser dans les ressources de ma foi ce qui fait vraiment sens et pour moi et qui peut interpeller la foi de l'autre. Donc, ma première découverte sur le plan personnel, c'est d'abord cela. Croire autrement, ça ne veut pas dire croire à une autre foi. C'est le même contenu, c'est la même réalité, mais affiné. Affiné par ce contexte-là. La deuxième découverte par ce travail-là, c'est que le dialogue n'est pas un état figé. Le dialogue, c'est une démarche qu'on entreprend, c'est un état d'esprit, c'est une volonté d'aller plus loin, c'est une volonté à la fois d'écouter et de s'écouter. J'insiste beaucoup sur ce, je reviens sur ces éléments de fond qui me paraissent vraiment des marques qui caractérisent le dialogue. Donc ce n'est pas une fin non plus en soi, c'est un chemin. C'est un chemin que je parcours en apprenant parfois à faire une halte, à faire une pause, à peut-être revenir en arrière, à avancer, à regarder plus loin. Donc c'est un apprentissage de la vie finalement. Le dialogue, c'est une ouverture sur la vie. Et la troisième découverte, personnellement, j'ai appris à situer toujours le dialogue, à situer dans son contexte, mais aussi à situer tout type de dialogue pour revenir à mon travail initial, moi je n'ai pas uniquement travaillé le rapport islamo-chrétien. D'abord, ma sujet ne porte pas sur le dialogue islamo-chrétien. Le titre de mon sujet, c'est « Révélation et parole, la science du kalam à la jonction du judaïsme, du christianisme et de l'islam ». Autrement dit, pour moi, le dialogue islamo-chrétien, pour qu'il soit fécond, il a à être situé dans un horizon qui le dépasse, qui est beaucoup plus large que lui. D'abord, pour un chrétien, le dialogue est toujours enraciné à l'intérieur d'un premier dialogue qui est judéo-chrétien. Donc on ne peut pas, pour un dialogue islamo-chrétien, mettre le dialogue ou le rapport au judaïsme entre parenthèses. C'est impossible. Et d'ailleurs, l'ouverture, l'apprentissage à l'ouverture à l'islam doit se faire par l'apprentissage de l'ouverture au judaïsme. Il y a quelque chose de paradigmatique entre ces types de dialogues. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le dialogue entre judaïsme, christianisme et islam, il est à situer dans un horizon encore plus large qui est le dialogue entre le christianisme et les autres religions. Donc il n'y a pas à exclure. À chaque fois qu'on exclut l'horizon entre christianisme et islam, on bouche le dialogue, l'ouverture sur les autres religions. Et à chaque fois qu'on repositionne le dialogue, on s'ouvre aux autres traditions religieuses. Avec une nuance, faire attention à ne pas transposer le dialogue. Le dialogue entre judaïsme et christianisme n'est pas transposable au niveau du dialogue entre christianisme et islam. Et le dialogue entre christianisme et islam n'est pas transposable dans le dialogue entre christianisme et bouddhisme. Voilà, donc apprendre à différencier et les niveaux du dialogue et le contexte du dialogue.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Vous remercier pour cet accueil et pour cette rencontre. Thank you.